7. Le château de verre. Et s'il chevauche tose les écloses, tant qu'il vit l'eau chastel, et il chevauche la tote droite, et tantôt qu'il vint devant la porte, l'or s'esgarde l'eau chastel, s'y voit qu'il s'y est trop orgueilleusement et trop belle, car tote la forteresse s'y est en haute roache naïve. Pseudo Gautier Map. Elles étaient venues de sous les horizons, d'une contrée insondable d'où nul homme n'était jamais remonté vivant. Dans les vastitudes de l'océan Éridien, bien au-delà des îles Maroises et de la péninsule de Tchoudalia, elles avaient éclos par myriades au fin fond d'abysses dépourvus de nom et de lumière. Pendant un temps, multitude transparente dans les ténèbres, elle s'était laissée porter au gré de courants glacés et pourtant foisonnants de vie. Dans ces gouffres grouillants, la faim était la seule loi. Elle se gavait de proies minuscules, nombre d'entre elles étaient happées par des monstres voraces. Il en restait toujours assez, plus vives ou plus chanceuses, pour tourbillonner sans fin en balais de fringales et de fuites. À force de mordre, elles croissaient et muaient. Elles s'effilaient, frétillaient, et leur tête comme leur dos se teintait de l'obscurité primale. Arrivait le moment fatidique où, au cœur de cette nuit éternelle, elle finissait par ouvrir les yeux. Elle ne voyait rien. Alors confusément s'éveillait en elle une autre nécessité que la faim. Il leur manquait quelque chose. L'abîme nourricier ne leur suffisait plus. Elles aspiraient inconsciemment à une existence moins engloutie et moins froide. Sans dessein, sans rêve, sans autre objet de convoitise que les créatures infimes qu'elles chassaient, elles ondoyaient vers des eaux moins pesantes et moins noires. Cette dérive collective trouvait ses élans dans des flux et des reflux de foule. Cela n'avait pas de sens, du moins jusqu'au jour où une lugueur vague commençait à révéler les contours du banc. Alors, les pupilles rondes miroitaient par milliers. Elles découvraient la réplication infinie de l'espèce, et elles vivaient leur seconde venue au monde. Issues des ténèbres, elles commençaient par fuir les gloires glauques qui tombaient des verrières marines. Mais la nuit, elles se laissaient séduire par la phosphorescence diffuse qu'allumaient sur les vagues la lune et les étoiles. Elle se risquait alors vers le plafond mystérieux, ridé de brises inimaginables et piqueté de pluies incompréhensibles. Au fil des saisons, elle redoutait un peu moins la lumière et se laissait porter entre deux eaux par des courants crépusculaires. Au hasard de leurs errances, elle gagnait des mers moins profondes. Un paysage submergé se haussait peu à peu dans les jours aqueux et dans les nuits stellaires. Elle suivait avec curiosité les reliefs les plus élevés, y découvrant des cachettes, des astéries et des festins nouveaux. Certains hauts fonds, où l'eau devenait chaude et transparente, promettaient des aventures aussi indéfinies que séduisantes. Parfois, les vagabondes les abandonnaient et se réfugiaient sous de curieux nuages incrustés d'algues, de vers et de bananes qui fendaient la voûte liquide. Ainsi, à l'ombre de coques pensues, les civelles finissaient-elles par gagner l'estuaire du Vernobre. Un nouvel univers s'y dévoilait devant elles. Sur les marches littorales, là où les fonds marins rattrapaient leur ciel, se déployaient des forêts de poteaux et de pilotis, enkystés de concrétions et de coquillages. Une armada de corps flottants brassait le firmament mouvant, astres énormes et ronds, comme des cétacés, effilés comme des espadons, quadrangulaires comme des raies. Leurs éclipses errantes assombrissaient les ombres portées sur la mer par un autre monde, celui des quais et des appontements, des maisons et des entrepôts de Moreux-Euc. Ou de l'autre côté de l'estuaire, du château de Mordune, buté en bord de mer comme une falaise. Mais tout cela n'était que l'écume de la frontière. La révélation la plus bouleversante venait de l'eau même. Si trouble et putride fut-elle devenue, elle changeait de nature. Elle perdait l'amertume océane Elle se chargeait d'esprits aussi neufs qu'inconnus, limoneuse et calcaire, ivre des promesses d'une deuxième vie. Ainsi, abandonnant l'immensité marine, civelles et anguillettes se lançaient-elles à l'assaut du duché de Bromel. Certaines, suffoquées par le bouleversement de l'onde, se laissaient refouler vers le large. La plupart chevauchaient la marée montante et empruntaient les bras que roulait le Vernobre à travers les quartiers de Longomore. Elles nageaient en se jouant à travers l'écran tendu des filets. Mais des gourmandes ne résistaient pas au chatoiement de mouches sous la surface. Des imprudentes se risquaient sans retour dans le nid trompeur des nasses. Ce n'était que quelques pertes de plus au long de l'interminable odyssée qui réserverait plus loin d'autres périls aux survivantes. Nombre de voyageuses rencontreraient leur destin sous le bec d'un échassier, sous les dents d'une loutre ou celle d'un grand brochet. Après avoir interminablement lutté contre le courant dans les méandres du fleuve, après avoir obliqué dans l'Andoune au confluent de Carwell, quelques-unes devaient même finir leur périple sous la poigne des ouromans. Quelle importance ! Il en restait bien assez pour remonter encore et toujours, ivre d'audace et d'un vertige opiniâtre, plus loin de l'océan, plus haut dans les amonts. Tandis que les soudards du grand bâtard pêchaient du côté de Todève, les avant-gardes serpentines se faufilaient déjà au pied de la forêt de Ganche, sous les maisons de Chanevier et même au-delà, bien plus profond dans les terres. Elles avaient dépassé le château du Trèfle, quelques-unes envahissaient Loubière, d'autres poursuivaient dans le lit de l'Andoune, vers le val ombreux d'Acraguier, et au-delà vers les baumes de Bassière. Les plus vaillantes, qui filaient en tête, faisaient une taille d'une coudée. Leur ventre se parait désormais de jaune. Par réflexe, elles s'écartèrent lorsque se glissa parmi elles une silhouette élancée. L'intruse qui avait émergé de la noirceur herbue d'un trou d'eau était infiniment plus grande que les pérégrines. Quand elle s'était détachée des profondeurs, on eût pu la prendre pour un énorme silure. Toutefois, les appendices qui ondulaient autour de sa tête n'avaient rien de barbillon, mais dansaient en mèches déliées et suaves. Ses bras minces, rangés le long du corps, la taille serrée dans une robe vert d'eau, la nageuse ondoyait avec l'aisance d'une loutre. Son interminable traîne d'algues et de soie battait avec l'indolence d'une caudale. Si quelques perles brillantes échappaient parfois à sa narine, elle ne remontait jamais pour reprendre son souffle. Elle parut prendre plaisir à accompagner le banc un moment, puisqu'elle ne les chassait point. Les anguilles se reformèrent autour d'elle avec indifférence. Au détour d'un méandre, l'onduleuse ondine finit par suspendre sa nage. Sa chevelure voila en partie son visage, mais non l'émeraude de son regard. Tandis que sa robe bouffait autour d'elle et que la frôlaient les anguilles, elle fixa son attention sur un faible remous parti d'une rive. Les pieds et les babines de nombreux chevaux troublaient l'onde en cercle brisé. D'une brasse indolente, la baigneuse s'écarta vers la berge opposée, trouvant refuge sous le feuillage, dérivant de longs brins d'âche. De sa main fuselée, elle lâcha une pincée de larves, qui remontèrent en tourbillonnant dans le courant. À peine arrivée à la surface, les naïades muèrent et s'élevèrent dans les airs en un essaim chatoyant de libellules. Les demoiselles s'en vinrent voltiger autour de l'écurie au boire, s'intéressant surtout au bagage des chevaux de somme. Elles s'arrêtèrent un instant devant chaque écu, comme attirées par leurs couleurs vives, puis se dispersèrent en un bruissement fugace. Au fond de la rivière, une moue de dépit troubla la belle figure de la baigneuse. Elle lâcha quelques paroles noyées et esquissa un geste autoritaire. En un instant, il n'y eut plus à sa place qu'une énorme poche d'air qui effraya les anguilles. Puis, s'élevant vers la surface, elle la creva dans un bouillonnement de bulles. Comme les aiguillers rassemblaient les chevaux, un fort clapotis attira l'attention de Bribras vers la rivière. Sous les reflets de l'onde, il crut deviner le glissement de nombreux poissons. Le jeune servant n'y accorda qu'un œil distrait. Il lui fallait ramener le palefroid à son seigneur. Ivorin de Kéan le remercia d'un mot, en mettant le pied à l'étrier. Bribras s'occupa ensuite de rassembler son sommier, son ronsin et Contenson, le puissant destrier du chevalier. Il se remit en selle en même temps que la plupart des seigneurs et de leurs valets d'armes. La suite de Blancandin sans escrègne s'apprêtait à reprendre la route.
« J'étais enfant la dernière fois que je suis venu à Vert, » disait le prince ducal. « Je ne parviens plus à me situer. Sommes-nous encore loin du château ?»«
Assez loin, oui, » répondit Dante de Maubrenas. « Ne comptez pas y faire étape avant ce soir. » Que le resplendissant nous garde de terminer le voyage à la brune. Le bosquet au pied du château est sinistre.
Dans ce cas, peut-être aurions-nous dû abréger cette pause.
Il fallait laisser les bêtes boire tout leur sou avant la bassière, car nous allons bientôt perdre la rivière.
Ah oui, tu as raison, Maubrenas. Je me rappelle ce curieux prodige. Le gouffre du Saulcerre.
Chevauchant sur les brisées de Blancandin et de ses chevaliers, Ivorin et son écuyer ne perdaient pas une miette de cet échange. Les deux jeunes gens n'avaient jamais voyagé à Vert, mais ils en avaient abondamment entendu parler. Les sièges dont la place forte avait été le théâtre 2 siècles plus tôt, pendant la guerre des grands vassaux, l'avaient rendu célèbre. Sa résistance aux forces de l'Arcontine Sagnas était exaltée dans de vieilles chansons de gestes, comme « La mort le roi Madame » ou « La chanson des preux ». Pour le bachelier et son valet, gagner Vert formait une expérience troublante, comme si le banal chemin qu'ils suivaient les entraînait vers les périls et la gloire rêvés depuis l'enfance. Pourtant, dans le pays assez morne qu'ils parcouraient, rien n'évoquait les terribles merveilles ni les hauts faits du temps jadis. La petite troupe avait d'abord remonté vers l'est les campagnes bien ordonnées de la seigneurie du Trèfle, avant de traverser d'autres finages aussi prospères qui dépendaient déjà de Vert. Les voyageurs avaient laissé à main droite les reliefs bleuâtres des hautes terres d'Agurande. Toutefois, en ce 2e jour de voyage, hameaux, champs et vignobles avaient cédé la place à un territoire inculte, où les taillis enserraient de plus en plus étroitement le cours de la rivière. Devant les cavaliers, s'élevaient de modestes collines broussailleuses de breuils et de fourrés. Hormis pour la chasse, cette varenne semblait pauvre de promesses.
« J'aurais cru ces terres mieux mises en valeur, » remarqua Ivorin. « Après tout, ne sont-elles point un domaine ducal ?»«
Ne vous méprenez point, » répondit Cowir de Thèves. « La seigneurie de Vert est riche et puissante. » Ces finages s'étendent jusqu'à la vallée du Vernobre et jusqu'aux marches de Brocmail. Mais ici, nous approchons du château et du grand bois funéraire qui l'entoure. Hormis la ménie seigneuriale et le chapitre du desséché, personne n'ose vivre dans cet endroit.
Sur la route, Ivorin de Kéan avait su frayer avec la suite du jeune prince. Malgré l'heure de gloire qu'il avait connue au tournoi de Belcastel, le bachelier avait conscience de la modestie de son rang à côté de celui des chevaliers qui escortaient Blancandin. Il avait su leur témoigner du respect sans pour autant se montrer obséquieux ou servile. Quoiqu'ils fussent tombés en disgrâce, les sires de Thèves et de Maubrenas conservaient la superbe des hauts hommes qu'ils avaient été lorsqu'ils officiaient dans l'hôtel de la duchesse Odéarde. Le service de cette grande dame leur avait laissé un mélange d'autorité et de belles manières. Même déchus, ils se comportaient toujours en personnages influents. Cela les poussait d'ailleurs à adopter une attitude protectrice vis-à-vis de Blancandin, que le jouvenceau eût sans doute jugé trop familière de la part d'autres chevaliers. Si Dame de Maubrenas montrait toujours quelque hauteur à l'encontre d'Ivorin, Cowir de Thèves lui manifestait plus de sympathie. Après tout, malgré leur différence d'âge, ils venaient de la même province. En outre, tous deux avaient été vaincus en défendant l'honneur d'une dame. Le seigneur de Thèves trouvait une consolation indirecte à prodiguer de l'estime au bachelier dans le même cas que lui. Bien qu'il fût moins disert, Gérian de Froec traitait également Ivorin comme un égal, ce dont le jeune chevalier lui savait gré. Vassal du comte de Quimarc, le sire de Froec se trouvait toujours fiefé.
quoique n'ayant pas forcément le prestige des chevaliers de la duchesse, du moins n'avait-il en rien déchu. De plus, Sir Gérian possédait ses terres dans la vallée de la Claye. Il se trouvait en première ligne pour contenir les raids ou romans. Aux yeux d'Ivrin, il était flatteur de se trouver agréé par un prud'homme de son expérience. Les trois seigneurs formaient bien plus que l'escorte de Blancandin. Quelques imprudences échappées au fil de la conversation avaient permis à Ivorin de deviner que les hauts hommes avaient servi d'agents à Méléagant de Verre. Ils étaient impliqués dans l'évasion de Blancandin, initiative des plus hardis, puisqu'elle leur vaudrait non seulement l'hostilité du duc, mais aussi celle de l'ordre du Sacre. Le prince et ses gens restaient évasifs sur les circonstances de cette échappée. Malgré sa curiosité, Ivorin avait quant à lui trop d'éducation pour s'en enquérir. Il doutait que les armes eussent été tirées. Un assaut contre une commanderie eût fait grand bruit. Il ne pouvait pas davantage croire en une vulgaire tentative de corruption. De toute façon, Cohir de Thèves et Dame de Maubrenas avaient été ruinés par la disgrâce de la duchesse. Le plus probable était que l'un des seigneurs avait bénéficié de la complicité d'un paladin de l'ordre. Il suffisait qu'ils se fussent liés par le passé et qu'on en eût appelé à la parole donnée. Le jeune sire de Kéan y voyait la façon la plus élégante de sortir un captif d'une forteresse sans coup férir ni rançon versée. La discrétion de bon aloi dont faisait preuve Ivorin avait contribué à le gratifier de la faveur des sires de Froek et de Thèves. Ce dernier lui délivra quelques conseils en passant, afin que le bachelier pût confirmer cette bonne impression auprès du seigneur de Verre. « Restez égal à vous-même, chevalier, » disait-il, « et vous aurez tout pour plaire à monseigneur Méléagant. Il apprécie la bravoure et la courtoisie sans s'arrêter au nombre de quartiers d'un lignage. N'ayez qu'une précaution. S'il est inutile de cacher votre aventure avec le sire de Vaumacelle, gardez-vous de chanter trop haut ses louanges. Bien que monseigneur Méléagan ait eu l'idée de le convoquer au pardon de l'immortel, il ne prise guère l'inconstant. Il lui offre l'occasion de réparer sa faute, rien de plus. Vous risqueriez de paraître importun au prince si vous vous faisiez l'avocat de Vaumacelle. » Ivorin hocha pensivement la tête. Convié de la sorte si redane est la marque d'un cœur magnanime, reconnut-il. Après tout, monseigneur Méléagan serait en droit de lui demander raison.
Magnanime, releva Cohir.
Chez monseigneur Méléagan, saluez la largeur d'esprit plutôt que la clémence. Mais tenez-lui le langage que vous venez d'avoir, et vous saurez devenir de ses amis. Comme il marchait, la vallée de Landoun s'était faite de plus en plus encaissée et buissonneuse. Devant eux, le lit de la rivière parut s'élargir et former un méandre dont l'amont se dérobait au regard. En fait, on ne voyait qu'un grand étang, allongé comme un fer de lance, à la pointe duquel s'écoulait le cours d'eau. En amont de l'exutoire, l'onde paraissait étale et triste. Les taillis l'encerclaient de leurs ombres hirsutes. Sur ce bief obscur, les branchages se reflétaient en fourrés décharnés.
« Nous voici à la Bassière, » annonça Dame de Maubrenas. « C'est ici que nous perdons la rivière. »
Blancandin, sans escrègne, arrêta son cheval et considéra le plan d'eau.
« Je me souviens du saut le cerf, mais pas de cet endroit, » dit-il d'un air songeur. « C'est dans ce val que réapparaît Landoun ?»«
Ne vous fiez pas au calme de ce lac, » avertit le sire de Maubrenas. « Nul n'en a jamais sondé le fond. »
On prétend que la rivière remonte des profondeurs du gouffre. Ne nous attardons pas ici. On raconte aussi que le flot murmure les regrets des morts.
En un geste conjuratoire, le jeune prince et Gérian de Froek appliquèrent le poing sur la poitrine afin de renforcer leur cœur contre les maléfices. De fait, une hébétude engourdissait la combe. Nulle brise ni chant d'oiseau dans les branches nues. Nulle ride sur le sombre miroir des eaux. Seigneurs et valets d'armes avaient beau savoir que l'onde, lorsqu'elle est vive, forme une barrière contre les fantômes, la léthargie qui assoupissait ce val diluait également leur certitude.
D'un commun accord, ils se remirent en marche et abandonnèrent la quiétude torpide des lieux. Ils entraient de plein pied dans le domaine de Vers, curieuse co-seigneurie à la fois sanctuaire et terre ducale. Depuis des temps immémoriaux, Vers accueillait un grand bosquet du desséché. D'après la légende, les ministres du dieu s'étaient jadis faufilés dans le gouffre du sceau le cerf et avaient découvert les cavernes creusées par l'Andoun. Ils les avaient alors consacrées, aménagées et transformées en catacombes. Au fil des siècles, ils avaient excavé toujours plus profond leurs hypogées. Au moment de la fondation du royaume de Léomance, avant même la constitution du duché de Bromel, Vers était déjà le siège d'un archonte, l'un des quatre hiérophantes du culte du desséché. C'était le prestige de ce sanctuaire qui avait ensuite poussé la lignée de Bromel à l'élire comme nécropole ducale. Tant que le royaume avait été puissant et prospère, les ducs et les archontes avaient œuvré en bonne intelligence. Les choses avaient toutefois pris mauvaise tournure au cours de la guerre des grands vassaux, quand le duc Jürgen avait revendiqué la couronne tandis que l'archonte Insanias prenait le parti de Léodegard le posthume, que la tradition avait vulgairement surnommé le roi idiot. Au cours de ce conflit tragique, qui avait scellé la ruine de la Léomance, le duc et l'archonte s'étaient affrontés. C'était à Vers que, pour la première fois, Insanias avait profané son sacerdoce et usé de nécromancie royale, contraignant les défunts dont il avait la garde à servir le dernier roi de Léomance. Le duc y avait répondu par le fer et par la basse magie, en s'attachant les envoûtements de l'enchanteur Sénargin. Les deux sièges de Vers formaient des morceaux de bravoure dans les chansons de gestes dont raffolait la noblesse bromaloise. Et tous les compagnons du prince Blancandin auraient pu en citer quelques vers de mémoire. Ces contes remplis de sortilèges, de hauts faits et de danses macabres prenaient toutefois un tout autre relief au bord des eaux sombres de la Bassière. Abandonnant le cours de la rivière engloutie, la suite de Blancandin s'enfonça dans les bois. Il ne s'agissait point d'une haute futaie, mais de taillis enracinés dans un sol pauvre. Le printemps rechignait à s'aventurer dans ces bosquets consacrés aux dieux de l'hiver. Les arbustes restaient nus et prostrés. Leur foisonnement seul dressant une palissade de pénombre de part et d'autre du chemin. Au bout d'une demi-lieue, deux stèles antiques signalèrent l'entrée dans le bois funéraire. Tavelés de lichen, poli par les siècles, le bas-relief au crâne édenté était si usé qu'il en était devenu presque indistinct. Pour autant, ce morne paysage ne paraissait pas à l'abandon. Le chemin déroulait sous le pas des chevaux une voie large et bien empierrée. De loin en loin, cette chaussée était coupée par des allées transversales qui étiraient leurs saignées à perte de vue dans les gaulis broussailleux. En d'autres lieux, ces percées n'auraient pas manqué d'exciter des envies de chasse chez les nobles voyageurs. Le pays, toutefois, ne paraissait guère giboyeux. Nul laissé sur la route, nul coulé dans les fourrés. Seuls de rares oiseaux fuyaient à l'approche de la troupe. Le silence qui pesait sur cette contrée suffisait à rappeler qu'on y voisinait avec les morts. Pour secouer le malaise qui engourdissait ses alliés, les cavaliers continuèrent un moment à deviser. Mais leur entrain sonnait factice, sinon inconvenant. Les conversations s'épuisaient d'elles-mêmes, et les hommes baissaient involontairement le ton. Même le claquement des sabots sur le chemin finissait par sonner déplacé. Insensiblement, la route montait au flanc de collines de faible altitude. Vers occupait en fait le piémont oriental des hautes terres d'Agurande. La suite de Blancandin longeait donc les premiers plissements du massif. Quoique les voyageurs ne s'élevassent guère, ils se sentaient rattrapés par les frimas. Le ciel, bouché de nuées grisâtres, s'affaissait à quelques empans au-dessus d'une ramée osseuse. Des plaques de neige sale subsistaient là où les taillis s'étouffaient si drûment qu'ils occultaient le soleil. Une brume pénétrante stagnait par endroits, à quelques coudées du sol,
habillant les fourrés de suaires effilochés. Dans la suite de Blancandin, les bavardages avaient peu à peu cédé à un silence maussade. Ce fut sans doute la raison pour laquelle plusieurs voyageurs perçurent la même rumeur.
« Avez-vous entendu ?»
s'enquit soudain le prince. Plusieurs chevaliers et écuyers répondirent par l'affirmative.
« On aurait dit des chevaux. Nous ne sommes pas seuls dans ces bois. »
Avec une grimace contrariée, Blancandin ajouta « Croyez-vous que les prêtres du bosquet vont se formaliser de notre passage ?»«
Ils pourraient se montrer désagréables, »
répondit Dame de Maubrenas.
« Mais ils ne montent pas à cheval. La plupart ont fait vœu de pauvreté.
De nombreuses familles nobles continuent à faire inhumer leurs défunts dans la nécropole, » rappela le sire de Froek.
« Ce sont sans doute des voyageurs comme nous, voire un cortège funèbre. »
Son hypothèse ne rassura la petite troupe qu'un temps. Quand la brume se déchirait, la route s'étirait, vide devant comme derrière eux. Par intermittence, ils continuaient d'entendre les échos de cavalcades, et même le bourdonnement de voix, parfois lointaines, parfois proches, étouffées par l'embroussaillement des taillis.
« Ces gens vont et viennent !»
finit par s'irriter Blancandin.
« Ce ne sont pas de simples pèlerins. »
Les chevaliers qui l'entouraient se dressaient sur leurs étriers et tendaient une oreille attentive. Le jeune prince avait raison. Ses courses louvoyantes ne ressemblaient pas à une allure de marche. La circonspection ou la méfiance commençait à se peindre sur les visages.
« Devons-nous craindre une embûche ?»
se demanda Blancandin en tirant sur ses rênes.
« Nous ne sommes restés qu'un jour au château du Trèfle, »
tempéra Cowir de Thèves. « Son Altesse Ducale n'est probablement pas encore informée de votre défi. »
« Le seigneur Rinfroi possède un beau colombier, »
rappela Dame de Maubrenas.
« Un pigeon voyageur mettra moins d'une journée à gagner Carwell. »
« Mais le duc s'y trouve-t-il déjà ?»
objecta le sire de Thèves.
« Et les poursuivants qu'il aurait lancés sur nos traces ?» aurait-il été en mesure de nous rattraper si vite ?
À cette heure, je crains moins mon père que mon demi-frère, remarqua Blancandin.
Houchin n'est pas si loin, et le bâtard a toujours été impétueux.
Un mouvement brusque interrompit leur colloque. À une demi-portée d'arc, un chien surgit en silence des fourrés. Son apparition provoqua l'envol de trois perdrix dans un sonore battement d'ailes. L'une d'elles ne put aller très haut. Tombé du ciel en oblique, un bolide la percuta avec une précision mortelle. L'oiseau foudroyé tournoya un instant dans les airs en perdant quelques plumes, avant d'être récupéré en plein vol par le rapace. Celui-ci cloua sa proie au sol au milieu du chemin et la couvrit de ses ailes ouvertes tout en regardant bien en face la troupe de Blancandin. Le chien rejoignit le faucon et sa prise pour se coucher à côté d'eux. Bien qu'ils fussent un peu loin pour avoir vu les jets de cuir attachés aux pattes du rapace, les voyageurs reconnurent aussitôt la chasse en vol. Ils admirèrent la façon dont le limier et les meurillons s'étaient coordonnés. Venant d'une allée transversale, retentissait déjà le trot de plusieurs chevaux, quelques sifflets et des appels. Les chasseurs débouchèrent bientôt devant la suite de Blancandin, ne s'apercevant qu'au dernier moment qu'ils n'étaient pas seuls. Cette rencontre dissipa rapidement les craintes des voyageurs. Les nouveaux venus étaient moitié moins nombreux qu'eux. En outre, ils n'étaient armés que de dagues de chasse et comptaient quelques femmes dans leur rang. À en juger par son gant de cuir, c'était d'ailleurs une jolie dame, chevauchant une hacnée de prix, qui venait de prendre la perdrix. Dans la petite bande, seul un autre cavalier était fauconnier, portant toujours son oiseau encapuchonné sur le bras gauche. Ils échangèrent des regards plus surpris que méfiants avec Blancandin et ses gens. Et puis le visage de Dame de Maubrenas s'illumina.
« Corps de roi !» s'écria-t-il. « Quelle bonne fortune, monseigneur !»
Le fauconnier éclata de rire.
« Ah, Maubrenas, je crois que tu seras ma plus grosse prise du jour !»
Et tout en gardant son faucon en équilibre sur le poing, il piqua des deux vers les voyageurs. Quoique vêtu d'un buffle des plus sobres et chaussé de bottes fatiguées,
Il débordait d'une telle assurance et montait un palefroid qui avait tant de bec que sa haute naissance sautait aux yeux. Arrivé devant les voyageurs, il les balaya rapidement du regard et s'arrêta sur Blancandin avec un rien d'hésitation.